Le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Le micro du soir. Aujourd'hui, je reçois Carmen Ionescu, directrice de l'agence de presse Rador, où elle a fait la plus grande partie de sa carrière. Parfaite francophone, détentrice d'un master et d'un doctorat de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Carmen Ionescu a aussi publié de nombreux textes et articles, évidemment, en tant que journaliste. L'un des derniers en date portant sur les défis de la guerre en Ukraine pour les agences de presse. Et je précise également que Carmen Ionescu est vice-présidente de l'Association des journalistes francophones de Roumanie. Carmen Ionescu, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous avoir au micro du soir parce que c'est la première fois. Et quand je regardais ma liste potentielle d'invités, je me disais, mais comment se fait-il que nous n'ayons pas invité déjà Carmen Ionescu? Vous êtes une personnalité du monde de la presse ici, du journalisme en Roumanie. Alors, pourriez-vous nous présenter d'abord l'agence Rador, son équipe, sa ligne éditoriale?
Oui, tout à fait, ça me fait très plaisir. Je peux dire que Rador, c'est une rédaction assez particulière parce qu'elle est née au sein de la radio publique roumaine. Donc, on s'imagine que dans la Radio France, on a à l'intérieur une agence de presse. Mais il faut juger en fait le temps. Rador a été créée en 1990, donc juste après la révolution de décembre. Et dans la période respective, les sources de presse étaient très, très, très pauvres, on peut dire. Et le président de la radio de l'époque, Monsieur Eugène Preda, a eu l'initiative en fait de créer un point, un grossiste d'information à l'intérieur de la radio roumaine, parce qu'il disait s'il y a des informations mauvaises, il faut le dire à la radio. Donc, bien ou mauvais, il faut les diffuser. Donc, Rador a commencé avec le monitoring de CNN et de la presse internationale. Les journalistes...
Vous dites monitoring...
Donc, c'est l'écoute, les choix des informations et la traduction pour le public roumain. Bien sûr, il y a aussi un processus de sélection, de tri d'informations, parce que ce sont les informations intéressantes pour le public roumain et pour les clients, parce que Rador a eu des clients même dans les premières années d'activité, plutôt les institutions de l'État et après la presse roumaine. Et vraiment, c'était quelque chose d'intéressant parce que avant, pendant le communisme, des centres de monitoring on était créé seulement à l'intérieur des services. Donc, le président de la radio a eu vraiment du courage parce qu'il risquait, en fait, une opinion de la part du public de la radio roumaine assez négative. Mais il a eu du succès et Rador a eu comme modèle au début Caversham, le centre de monitoring de BBC. On a eu dans les premières années d'activité beaucoup de formations de la part de BBC, mais pas seulement, de la part de Radio France. On a eu aussi des formateurs de la part de Deutsche Welle. Et c'était très intéressant et important pour les journalistes. Moi, j'étais très jeune à l'époque, mais on avait des journalistes de la période communiste et ils ont eu l'occasion en fait, de se former comme ça, avec les formateurs des grands radios occidentaux.
Et est-ce que c'est toujours le fonctionnement principal de Rador, c'est-à-dire que vous travaillez d'abord pour la radio publique?
Oui, on travaille d'abord pour la radio publique et on a aussi en fonction de collecte de nouvelles. Parce que par exemple, notre flux général d'informations, comme pour toutes les agences, nous avons dans le flux des informations de la part des rédacteurs, reporters, de Radio Roumanie Actualité, par exemple, notre principale antenne, mais aussi des informations des autres antennes de la radio roumaine. On a aussi un flux des informations locales de la part des stations régionales de Radio Roumanie. Donc, on fait aussi la collecte, mais on fait aussi le travail des collectes d'informations étrangères surtout. Donc, on reçoit et on diffuse dans notre réseau.
Vous diffusez également pour le public directement?
Pour le public, très peu, mais très pour nos clients, oui.
Quand vous dites vos clients?
Par exemple, ce sont des médias roumains, comme, tous les agences, et on a aussi les bureaux de presse de plusieurs institutions de l'État. Par exemple, l'administration présidentielle, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères.
Et comment vous vous différenciez de Dagar Press?
On a cette partie de monitoring, donc on est vraiment...
Qui est l'agence de presse nationale.
Oui, voilà.
Comme c'est l'équivalent de l'AFP, en fait, vous pourriez dire ça en Roumanie, Dagar Press?
Dagar Press, c'est l'équivalent de l'AFP.
L'agence France-Presse.
Oui, parce que c'est l'agence nationale, ils ont eu en fait des liens. Oh là là, ça c'est mon sujet préféré. On peut discuter jusqu'au demain. Oui.
On va aborder plusieurs angles là-dessus. Oui.
Oui. En fait, la première agence de presse en Roumanie a été créée par AVAS, donc l'ancêtre de l'AFP. Et on a une très longue et belle tradition de coopération.
Et donc, la spécificité, encore une fois, de Radar par rapport à Dagar Press, c'est que votre premier client, c'est quand même la radio de Roumanie, la radio publique roumaine.
Oui. D'accord. Et notre partie de monitoring, c'est aussi assez spécifique.
Alors, je mentionnais en introduction que vous aviez récemment écrit un article sur les défis de la guerre en Ukraine pour les agences de presse. Alors, précisément, ces défis dans le traitement de cette guerre en particulier, quels sont-ils?
Oh là là, oui, c'était vraiment très difficile pour les agences de presse du monde entier. Parce que les agences de presse sont les maîtres de la vérification des nouvelles, des informations. On ne donne pas en fait une information non vérifiée, on va dire, parce que par exemple si Radar donne une information qui n'est pas bien vérifiée,
Après, 4 millions
d'écouteurs de nos antennes par exemple vont être touchés tout d'un coup, et aussi tous les autres clients. C'est très difficile. Imaginez-vous l'AFP qui a des centaines de bureaux dans tout le monde et des milliers de clients dans tout le monde. Donc, ça touche vraiment énormément. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant la guerre? Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de mal à vérifier les informations. Au début de la guerre, 2 ou 3 semaines, la Russie, en fait, a avancé une loi. Finalement, c'était un projet, mais après, c'était une décision, en fait, de rejeter les correspondants de la presse étrangère. Ils ont coupé, en fait, l'accès de plusieurs médias. Et du coup, on s'était dit, tiens, on n'a pas de source directe. Radio Roumanie a eu un correspondant, mais malheureusement, il avait très mal. On a dû le retirer, de point de vue physique, on va dire. Donc, il a été retiré aussi. Et on est resté comme ça. Donc, on avait Reuters, l'AFP en quelque sorte, parce que l'AFP aussi a eu quelques problèmes. Et on s'était dit, tiens, on doit vérifier les informations. Et comment on a fait? On a fait des informations traduites de l'ukrainienne, russe, anglais et parfois aussi des autres langues.
Donc, d'agences ukrainiennes?
D'agences ukrainiennes ou, par exemple, des communiqués de presse des institutions importantes de ce pays, aussi de Russie. On a dû vérifier aussi la presse indépendante de Russie. C'est très peu, par exemple, Medusa, mais c'est vraiment très peu.
Et en Ukraine, il en reste encore un petit peu de la presse indépendante?
Oui, je pense
davantage.
Oui. Mais il faut faire attention vraiment parce que, bien sûr, il y a les intérêts de guerre des deux parties. Donc, il faut vraiment faire attention. Et on a dû, c'est difficile à dire ça, mais on a fait ça, nous, et aussi Reuters, France Presse, on a dû mettre des disclaimers, donc des petits textes en disant, voilà, c'est une information qu'on ne peut pas vérifier de sources indépendantes. Et ça, c'est de jamais vu. dans le monde des agences de presse, c'est jamais vu. Dans leur histoire, donc, ils ont commencé en France en 1835. Ils n'ont jamais fait ça. J'ai vu plusieurs archives, c'était mon sujet de thèse, donc j'ai vu plusieurs archives, je sais, ils n'ont pas fait ça.
Et dans d'autres conflits, ça ne s'est jamais produit?
Non. C'est la première fois.
Qu'il y a véritablement un manque de vérification, enfin un manque de possibilité de vérifier.
De possibilité de vérifier, et c'était aussi la propagande russe.
À cause de la propagande russe.
Oui. Qui a beaucoup influencé.
Et en parlant de ça, justement, de propagande, vous, au-delà de cette guerre qui subit évidemment diverses campagnes de désinformation, en tant que journaliste et au-delà de votre travail en tant qu'agencière, hein, comme on dit, comment la contrer, cette désinformation?
Il faut donner des informations vérifiées, correctes, honnêtes. Mais c'est vrai que l'ascension du courant souverainiste, complotiste dans le monde entier fait notre travail très difficile. Très difficile, parce qu'on nous dit « vous n'êtes pas correct », même si l'information a été vérifiée, elle est honnête. Ils nous disent, par exemple, on a reçu même des menaces, en disant que si nous utilisons, par exemple, les liens fournis pour faire un article mainstream, donc qui ne reconnaît pas, dans le cas dont je parle, les pressions subies par un candidat, les pressions psychologiques, et on va dire autrement, on va être guillotiné, par exemple. Donc, il y a aussi les menaces d'un part, mais il y a aussi les problèmes pour le public qui ne veut plus croire à nos informations. Mais on n'a pas de chance, nous devons continuer à donner des informations honnêtes. En fait, c'est aussi le rôle d'une agence de presse.
Et d'éduquer aux médias aussi. Oui. Hein, l'éducation médias, c'est devenu quelque chose de très important.
Oui,
pour que les gens puissent discerner.
Oui.
Carmen Ionescu, je vais vous poser une question de journaliste à journaliste que je vais vous avouer, je n'ose pas trop poser parce que ça veut dire remettre en cause un petit peu la façon dont on fait notre métier. Quand on voit la progression des extrémismes, comme vous l'avez mentionné un peu partout en Europe, et pas seulement en Europe, je me dis que quelque part, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, nous les journalistes, la presse de façon générale, portons une part de responsabilité. Sans être les principaux responsables de cette montée des radicalisations, nous n'avons peut-être pas su comprendre les frustrations. Nous n'avons peut-être pas su transmettre de façon profonde et pérenne les valeurs démocratiques chères à la plupart des grands médias européens. Voilà, j'ai posé la question. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes relativement d'accord avec ça? Je pense que des fois, il faut aussi prendre du recul nous-mêmes et se dire, mais comment se fait-il, hein, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même, surtout en Europe, une presse libre qui a réussi, même avec ses imperfections, à se développer. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Quelque part, il y a quelque chose qu'on a mal fait.
Oui, je suis d'accord avec ça. Nous avons aussi une responsabilité et il faut bien assumer notre responsabilité. Je pense que, en fait, nous avons pris la démocratie comme quelque chose de pérenne, comme quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Et on a parlé de ce point de vue. On n'a pas...
Toujours à travers le même prisme, disons.
Oui, toujours par le même prisme. Et aussi, on n'a pas défendu, en fait. Nous avons dit, par exemple, ici en Roumanie, on a la liberté, voilà, c'est pour nous, c'est pour jamais. Mais non, ce n'est pas ça. Et on observe, en fait, les dernières années qu'il faut défendre. Il faut défendre les valeurs, il faut défendre même la valeur suprême, la liberté d'expression, la liberté, je ne sais pas, de travail, de diversité, de tout ça.
Mais en amont, c'est-à-dire quand on pense à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos spectateurs, est-ce que selon vous, un travail, je dirais presque d'études psychologiques de à qui on s'adresse aurait dû être fait précisément pour mieux comprendre les gens de façon générale et comprendre que on peut pas s'adresser de la même façon avec tout le monde. Je ne sais pas, mais enfin moi personnellement j'essaie de me poser ce genre de questions. Comment se fait-il qu'on n'a pas su calmer les frustrations?
Oui, c'est vrai, on n'a pas été attentif à ça. C'est vrai. On n'a pas vu, en fait, l'ascension.
D'une façon, peut-être, oui. J'irais presque jusqu'à dire un peu, non pas arrogante, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a certaines critiques qu'il faut écouter de ce journalisme un peu supérieur, très intellectuel et qui s'intéresse aux questions sociétales, mais qui peut-être n'a pas fait preuve de suffisamment de psychologie, encore une fois, vis-à-vis des lecteurs.
Oui, c'est
une question que je me pose, hein. Je ne l'affirme pas. Mais...
Non, c'est normal. Moi, je me suis rendu compte de ça parce que pour les agences, on n'a pas en fait un contact direct avec les lecteurs de dépêches, seulement sur le site, mais on n'a pas en fait un lien direct.
Mais votre travail est autre, mais oui, c'était une question à la journaliste. Hein. Oui,
mais en tout cas, je me dis que les chercheurs ont eu, en fait, l'instant avant
quand
nous,
vous les dites journalistes.
Les chercheurs des sciences de l'information et de la communication.
Donc, les chercheurs en sciences sociales de façon générale.
Oui, oui. Et on a eu un colloque ici en Roumanie avec plusieurs chercheurs de France, environ 40 chercheurs de France. Et je peux dire qu'ils sont aussi très, très curieux du phénomène. Et il y a des dizaines de chercheurs qui maintenant analysent les phénomènes des dernières années et surtout le phénomène de premier tour des élections présidentielles ici en Roumanie.
Donc le phénomène de radicalisation et tout ça, vous parlez de ça.
Oui, parce qu'ils veulent savoir exactement ça. Comment on a eu ce phénomène sans se rendre compte.
Je suis content de vous entendre dire ça parce que c'est une question que j'ose à peine parfois me poser à moi-même, mais il faut faire le bilan il faut avoir le courage de prendre du recul et se dire mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé là. Encore une fois, les médias ne sont pas la cause principale de tout ça, je ne pense pas en tout cas. Revenons à votre agence Radar. J'ai pu observer que l'intégration de l'intelligence artificielle était devenue une priorité pour plusieurs grandes agences internationales, je pense notamment à l'agence France Presse. Qu'en pensez-vous? Comment vous situez-vous par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle, en ce qui concerne Radar, et vous, plus personnellement, en tant que journaliste, est-ce que vous êtes plutôt craintive, optimiste?
Moi, je suis optimiste parce que je pense que c'est vraiment une opportunité technologique. Les agences de presse ont su, pendant le temps, utiliser les dernières technologies pour être les plus rapides de monde, concernant bien sûr la transmission de l'information. Donc, je pense qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle, mais on doit en fait contrôler tout le temps le produit fourni par l'intelligence artificielle. Pour le moment, nous utilisons l'intelligence artificielle pour transcription automatique, pour faire des transcriptions automatiques. Ça réduit beaucoup le temps.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, il y a des logiciels qui vous permettent, vous rentrez votre son MP3 ou dans un autre format, et puis vous avez la transcription directement. Oui. Bon, ça dépend un petit peu de l'élocution aussi de la personne. Hein. Des fois, ça peut être un double travail.
Oui,
mais,
tout à fait, mais je ne sais pas.
De façon générale, c'est quand même...
De façon générale, ça marche. Et c'est de dernier temps, parce qu'en roumain, on n'a pas eu, en fait... un soft bien fourni pour la transcription en roumain. Le premier, je trouve que c'était fait en France, en 2015, et c'était CNRS.
Et le Centre national de recherche scientifique.
Oui, et bravo pour eux, parce qu'ils ont travaillé vraiment dans plusieurs langues. On a parlé avec eux, et c'est ça aussi, une agence de presse doit avoir un lien avec les chercheurs de demain pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser avant les autres pour être les premiers, pour avoir en fait succès avec la vente d'abonnements de presse, parce que sinon...
Pour revenir à l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on l'entend souvent, le fait que bon, il faut contrôler, il faudra toujours qu'un journaliste passe après le traitement de l'information par l'intelligence artificielle avant d'envoyer, de diffuser l'information. Mais on est presque arrivé, on y est peut-être déjà, mais l'intelligence artificielle va faire un travail, on peut le dire, on peut l'affirmer déjà, parfait, notamment en ce qui concerne des dépêches d'agences de presse, très rapidement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où ce contrôle, en tout cas pour les dépêches d'agences, va être presque, même plus une formalité, ça va plus être nécessaire. Donc on voit comment le métier de journaliste va nécessairement est déjà en train de changer. Mais on se dit aussi, quand on voit comment l'intelligence artificielle aujourd'hui écrit des romans et peut faire preuve d'une certaine intelligence émotionnelle également, donc on se dit que au-delà du discernement, ce sera plutôt une question de choix. Est-ce que vous voulez un journalisme fait par des humains, ou alors est-ce que vous voulez un journalisme fait par l'intelligence artificielle? On en est presque là aujourd'hui.
On n'a pas en fait, utilisé l'intelligence artificielle générative des dernières générations pour écrire vraiment les dépêches. Ici, je trouve que c'est un risque, parce qu'on ne peut pas bien contrôler en fait les sources utilisées par l'intelligence artificielle finalement pour donner notre dépêche. Pour le moment, on n'est pas très sûr de ça.
Mais on va y arriver, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, l'intelligence artificielle sera capable de se contrôler elle-même. C'est déjà même le cas. Donc...
Oui. Ça va être très prochainement. Et aussi, il y a un autre aspect, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contrôle des fake news, on va dire. Nous avons créé un groupe qui s'appelle Roumania Tchèque, avec un formateur français. C'est le doyen de l'école de journalistes de Tours, Laurent Bigot. Donc, on a fait plusieurs cours. Et après notre formation, on fait toujours des cours pour nous mettre au niveau avec la technologie de dépistage des fausses images.
Mais oui, non, évidemment, elle sera très utile, et elle est déjà très utile, cette intelligence artificielle, évidemment. Mais je m'en sers également. Mais voyez ce que je veux dire, je pense qu'à un moment donné, ce sera une question de choix. Est-ce qu'on veut de l'humain ou de l'artificiel? Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, personnellement, quand j'essaie de réfléchir me projeter en tant que journaliste dans les années qui viennent, j'essaie de me dire, mais quelle valeur ajoutée je vais pouvoir donner aux auditeurs, aux lecteurs? Il faut pouvoir aussi se poser ce genre de questions, non? Pensez pas.
Oui, mais je pense que nous avons...
Il y a de la marge encore.
Oui, il y a de la marge. Et finalement, nous sommes les maîtres de l'intelligence artificielle. Finalement, nous décidons comment...
Pour l'instant.
Et combien, oui. Oui, je pense ça. Et on a toujours les émotions. Oui. Par exemple, les émotions, une sorte d'analyse, le tri personnel des sources. Je pense qu'on a de la chance encore.
On sent, Carmen Ionescu, que vous aimez passionnément votre métier. Mais pourquoi? Dites-moi de façon un peu intime, pourquoi vous l'aimez, ce métier de journaliste?
Moi, j'ai voulu faire ça depuis mon enfance. J'utilisais le jardin de ma grand-mère pour me confectionner des micros, par exemple.
C'est-à-dire
des micros pour parler, par exemple, les plantes.
Ah, d'accord, oui.
Voilà, donc je savais ça depuis longtemps. Et finalement, j'ai réussi, c'était mon rêve, parce que je voulais dire la vérité, je voulais parler aux gens. Et aussi, j'ai réussi ça avec l'aide de la France, parce que finalement, je suis allée en France, comme nos écrivains de l'époque.
Ça, c'était en quelle année? Quand est-ce que vous êtes partie? Donc, comme je disais en introduction, oui, vous avez fait
oui,
master et doctorat.
Oui,
vous êtes restée combien de temps?
Une année pour mon 2A, en oui. fait, à Paris 3. Et après, j'ai fait des allers-retours oui. pour ma thèse. Parce que j'avais déjà mon poste à la radio et je voulais absolument... en fait.
Qui portait sur quoi, votre thèse?
Les agences de presse de la Roumanie et la circulation internationale de l'information. C'était Histoire de la presse, c'était 1877-1940. Et j'ai vu plusieurs archives de Havas. Donc, surtout la correspondance entre les directeurs des agences de presse roumaines et français, les correspondants de presse, c'était vraiment fascinant.
Est-ce que vous avez pensé à faire de la correspondance depuis un pays étranger à un moment donné, où vous avez toujours voulu d'abord informer depuis et la Roumanie et pour la Roumanie?
J'aimerais bien être correspondant.
Ah, toujours?
Oui, toujours.
Ah.
Oui. Et même si j'ai fait maintenant plusieurs choses, peut-être un peu bureaucratiques, je prends de vie quand je peux réaliser, par exemple, un interview, un reportage.
Vous le faites toujours?
Ah oui, oui.
Ouais, vous avez le temps, vous accordez des plages de temps pour ça, oui.
Oui, je l'ai fait et je
on
suis...
On n'a pas dit, excusez-moi, combien de personnes travaillent pour Ador? On n'a pas dit ça.
Maintenant, on est 65.
Ah oui, quand même.
Oui. Oui, c'est ça.
Et pas tous journalistes. Vous avez
non.
Sur les 65, il y a combien de journalistes?
Il y a 45 journalistes, mais il y a aussi des documentalistes. Il y a un personnel qui est moitié technique, moitié journaliste, parce qu'ils font les éditions en fait, des flux d'informations, mais aussi sont des journalistes de site. On a fait une reconversion professionnelle, on va dire. Parce qu'ils ont perdu, en fait, avec tous les logiciels, ils ont perdu un petit peu de leur activité. Et aussi, on a un groupe très petit de 5 personnes qui est administratif.
D'accord, d'accord, d'accord. Et quand vous dites les entretiens, c'est quand, voilà, quand il s'agit de faire un entretien avec une personnalité importante, ou c'est vous qui vous en chargez, par exemple?
Oui, mais sont aussi mes collègues, mais si j'aime bien en fait le sujet, je préfère le faire moi-même.
Pour terminer cet entretien, Carmen Ionescu, là, j'aimerais poser une question à non seulement la journaliste, mais à la citoyenne roumaine que vous êtes. On a vécu une période électorale riche, excusez-moi pour la pauvreté du vocabulaire, mais voilà, on va dire ça comme ça, riche. Quel est votre sentiment aujourd'hui, plutôt rassuré,
oui,
avec de l'espérance?
Oui, exactement, c'est de l'espérance.
Excusez-moi, je vous ai dit oui. plutôt rassuré, oui. mais je me suis avancé. Hein, mais,
non, je voulais utiliser le mot soulagé.
Oui, 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 soulagé.
C'était, oui. oui, c'était vraiment une période très tendue.
Vous avez,
oui.
beaucoup travaillé, j'imagine. Ça a
oui.
été,
oui, parce qu'on a fait aussi le flux de campagne électorale. Donc, on a fait le monitoring de la campagne électorale faite par la radio roumaine. Et on a eu, du coup, un produit en plus avec beaucoup d'interventions, des informations, des talk shows. On a eu de la chance, entre guillemets, qu'on a eu seulement un débat de 4 heures, mais quand même un débat. C'était vraiment très difficile parce qu'on a essayé aussi d'expliquer un petit peu, mais aussi de garder la ligne honnête, d'accorder en fait un espace de discussion pour les deux parties de débat, donc de le mettre. Mais parfois, on a dû voir des fausses nouvelles et on ne pouvait pas du tout les transmettre comme ça. Désolé, mais c'était comme ça. C'est pas notre ration d'être.
Et en vous écoutant, je me disais aussi que j'avais envie de vous recevoir parce que, alors, d'un côté, j'ai dit que le journalisme devait peut-être un peu se remettre en cause, enfin remettre en question certaines choses, mais d'un autre côté, je dirais que j'entends personnellement un peu trop souvent que les médias roumains, ça va pas, que la presse roumaine est influencée par des groupes d'intérêt, etc., etc. Et je suis content que vous soyez venu aujourd'hui aussi pour dire que, attention, il y a aussi des journalistes en Roumanie, et beaucoup, qui font bien leur métier, qui savent le faire. Il y a des plateformes, plutôt que des plateformes, des médias oui. comme Rador et comme d'autres, et des médias d'investigation qui sont, oui. qu'on connaît maintenant et qui sont, et qui ont très bonne presse. Mais c'est un peu un message aussi hein, pour de dire arrêtons de critiquer tout le temps la presse roumaine. Non, il y a des bonnes choses qui sont faites et il y a une presse qui est suffisamment bonne, compétente pour que le citoyen soit informé et vote en connaissance de cause.
Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que tous les bouleversements du présent ont changé aussi un peu la manière de faire des trusts de presse, tout à fait. Ils ont en fait utilisé les événements pour venir sur une route plus correcte, on va dire. Plus équilibrée.
Et on en connaît hein, des oui. journalistes roumains très bons et qui font leur métier dans un environnement compliqué, mais qui essaient de le faire du mieux possible. Hein, ça, oui. il faut bien le répéter et le dire. Merci infiniment, Carmen Ionescu, d'avoir été au micro du soir. Mmh. Il était temps.
Ouais, d'accord, merci
donc,
aussi.
Ce n'est qu'un au revoir. Hein, je suis ravi de vous avoir accueilli et merci de vos propos. Merci beaucoup.
Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end à lire de la belle et de la bonne presse roumaine. À bientôt. Week-end plakout. Au revoir.
Le micro du soir, Aici la RFI.